Donc, dans ce deuxième cours, je vais vous parler d'un sujet assez différent, qui est la question du transport thermique dans le régime quantique. Donc, de même qu'on peut discuter le transport électrique dans le régime quantique, quand on commence à avoir des conductances qui sont un faible nombre de fois 2 e carré sur h, que se passe-t-il pour le transport thermique ? Alors, je vous préviens tout de suite que c'est un sujet sur lequel je suis totalement incompétent. Et la préparation de ce cours m'a permis de me cultiver beaucoup. Alors, la première chose que je voudrais faire observer, c'est que rien que l'observation de la loi de Wiedemann-Franz, dont j'ai parlé déjà la dernière fois, vous permet de suspecter qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce régime-là. Si vous prenez un système qui serait composé d'un seul canal et dans un régime parfaitement balistique, eh bien vous trouvez que la conductance thermique divisée par la température, alors la conductance thermique elle est toujours linéaire en T, donc je vais toujours considérer la limite de basse température de G thermique sur T, eh bien tend vers une valeur qui est pi carré sur 3 kb carré sur H par composante de spin, disons. Et de même qu'on a vu qu'il y avait une conductance maximum dans le cas où il y a un seul canal, qui est carré sur H. Et évidemment, quand vous faites le rapport de ces deux choses, ben, vous trouvez la valeur magique du nombre de Lorentz, pi carré sur 3 kb sur e carré. Je vous rappelle comment on trouve ça dans le formalisme de Landauer. Vous reprenez l'expression de ces intégrales sans dimension, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Vous faites un développement de Sommerfeld à basse température et ce que vous trouvez, c'est que la conductance thermique qui est définie en circuit ouvert, donc où il y a aussi ce terme ici, qui vient du fait que vous vous placez à la condition de stop, la condition de Seebeck, pour calculer la conductance thermique, mais en fait ce terme il ne contribue pas dans la limite de basse température, ce qui contribue c'est ce terme ici, et ceci est un second moment, vous voyez. Mais dans la limite de basse température, ce second moment ne fait que sonder la valeur du coefficient de transmission à l'énergie de Fermi. Toutes les autres dérivées ne contribuent pas. Et le rapport de la conductance thermique à la conductance électrique est ce nombre de Lorentz universel parce que la valeur de la transmission à l'énergie de Fermi disparaît dans ce rapport. Mais le point important, c'est que la conductance thermique par elle-même, dans le cas balistique, donc quand T vaut 1, eh bien, tend vers cette valeur magique, pi carré sur 3, kb carré sur h. Donc la question c'est, quelle est la généralité de cette valeur remarquable ? Et ce que je vais commencer par vous montrer, c'est qu'en fait, eh bien, la même valeur s'applique pour des bosons. Donc on va considérer maintenant le cas où on considère non pas la conductance thermique dû aux électrons, mais dans un système électronique, mais la conductance thermique due aux phonons. Et on va beaucoup entendre parler de conductivité thermique due aux phonons dans le séminaire suivant, mais probablement pas trop dans le régime vraiment quantique, on va dire. Donc ici, je regarde le cas d'un mode bosonique. Donc je considère un mode unique pratiquement dans toute la suite, juste par simplicité. Dans le cas où j'ai des bosons en nombre non conservé, donc par exemple des phonons ou des photons. Alors de même qu'on a écrit une formule de Landauer pour l'énergie dans le cas fermionique, on peut écrire exactement la même chose pour cette situation-là, et cette formule de Landauer va prendre exactement la même allure. Si on calcule le courant d'énergie, par exemple, on va avoir une intégrale sur les cas positifs, des cas sur 2π, une vitesse, l'énergie de mon boson, donc h bar oméga k, et puis le coefficient de transmission et la différence des deux facteurs de Bose, cette fois à gauche et à droite, donc pris à mu égale 0. La chose qui est différente à gauche et à droite, c'est la température. Alors, comme d'habitude, compensation entre la vitesse de groupe et la densité d'état, donc je peux réexprimer tout ça comme une intégrale sur les énergies. Et j'obtiens finalement l'expression suivante pour la conductance thermique. en divisant le courant d'énergie par delta t, j'obtiens cette expression. Et si je regarde la limite de basse température, c'est juste le coefficient de transmission à énergie nulle qui va intervenir, et je trouve que la conductance thermique divisée par t par mode tend vers pi carré sur 3, kb carré sur h. Donc ça, ça vient du fait que le second moment de la distribution de Bose vaut pi carré sur 3. Donc c'est la même valeur que dans le cas fermionique, fois le coefficient de transmission. Et donc ce coefficient de transmission étant plus petit que 1, vous voyez que pi carré sur 3, kb carré sur h est cette valeur magique dans le cas d'un canal balistique. Alors ce qui est remarquable, c'est, alors on peut évidemment se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de général là-dedans ? Est-ce que c'est quelque chose qui est un accident similaire pour les fermions et pour les bosons, ou est-ce que c'est plus général ? Alors, dans les années, disons début des années 2000, fin des années 90, les gens se sont posés cette question-là, en particulier en liaison, évidemment, avec les foils quantiques fractionnaires, et l'interprétation des quasi-particules dans les foils quantiques fractionnaires et également dans d'autres systèmes, comme les spinons des chaînes unidimensionnelles, en termes des statistiques d'exclusion fractionnaire. Donc ça, c'est, je n'ai pas le temps de faire un cours là-dessus, mais c'est une manière de voir les excitations obéissant à des lois de composition qui sont différentes de celles de fermions et de bosons pour des quasi-particules. L'idée étant que ce qui se passe quand on ajoute une particule dans un système fermionique, eh bien, on le met dans un niveau donné, on interdit l'accès de ce niveau à une autre particule. Dans le cas bosonique, on met une particule dans un niveau donné et on n'interdit rien du tout, on peut rajouter un boson dans ce niveau-là, mais on peut considérer une situation plus générale où quand je rajoute une particule dans mon espace de Hilbert, eh bien, la taille de l'espace de Hilbert accessible pour rajouter une particule suivante change. Donc elle ne change pas comme dans le cas fermionique où le niveau est bloqué ou dans le cas bosonique où le niveau est laissé toujours accessible, mais elle change de manière différente et c'est ce paramètre G qui caractérise ces statistiques d'exclusion. G est un nombre rationnel. La statistique de particules indépendantes obéissant à de quasi-particules, ça peut être que des quasi-particules qui obéissent à ce genre de loi bizarre. Ce sont donc ces statistiques d'exclusion de Holden, dont le facteur statistique pour des particules indépendantes a été calculé dans un article ultérieur de Wu, et qui est donné par la formule suivante, 1 sur G plus W, où W obéit à cette équation implicite, exponentielle X étant toujours la fugacité du système. Alors la limite G tend vers 0, donc où il n'y a pas d'exclusion correspond au boson, et la limite G tend vers 1 au fermion. Alors vous pouvez reprendre toutes les expressions que j'ai établies jusqu'à maintenant pour les coefficients thermoélectriques, et disons, ici on va se focaliser simplement sur la conductance thermique, pour ces statistiques d'exclusion, donc pour G quelconque, et bien sûr, la conductivité thermique va faire intervenir l'intégrale I2, donc vous voyez ici, donc ici j'ai considérer ces particules en nombre non conservé, intégrale dx, x puissance n, et puis la dérivée par rapport à la fugacité, à epsilon moins mu sur 4, à l'énergie, disons, de cette fonction de distribution. Il y a une manière très simple de réécrire cette expression, qui est assez complexe, puisque vous voyez que Fg n'est pas connu explicitement. C'est ça le problème de ces statistiques fractionnaires, c'est qu'à la différence du cas de Bose, où F est 1 sur exponentielle moins x moins 1, et du cas de Fermi, où F est 1 sur exponentielle x plus 1, en général, pour G quelconque, on ne connaît pas la forme de cette fonction de distribution explicitement. On la connaît que dans certains cas particuliers, comme G égale 1,5, mais pas d'une manière générale. En revanche, ce qu'il est commode de faire, c'est plutôt que d'intégrer sur cette variable énergie, d'intégrer sur W, qui est implicitement lié à x par cette équation ici, qui est donc l'équation de Wu. Et en intégrant sur cette variable W, vous pouvez facilement réexprimer cette intégrale I2 et vous exprimer cette expression. Et alors là, il y a une chose absolument magique qui se passe, qui doit avoir une signification profonde, c'est ce qu'on dit quand on observe un phénomène magique et qu'on ne comprend pas Pourquoi ? Ça doit avoir une signification profonde qui est qu'en fait, cette intégrale ici, pour n égale 2, ne dépend pas de g du tout. Donc vous voyez, c'est quand même assez surprenant. Hein. On a ici une certaine intégrale qui est un peu compliquée. Et quand vous mettez n égale 2, elle ne dépend pas de g. Si vous mettez n égale 0, elle dépend parfaitement de g. I0, c'est 1 sur g. I1 est nul. Ça, c'est juste une symétrie du système. Et I2 vaut pi carré sur 3, indépendant de g. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous regardez la conductance pour des quasi-particules obéissant à ces statistiques d'exclusion de Holden et qui auraient une charge Q, eh bien la conductance, c'est Q carré sur H, qui est, si vous voulez, notre quantum de conductance pour ces particules, fois 1 sur G, donc elle dépend de G. Donc le nombre de Lorentz va aussi dépendre de G, mais la conductance thermique de ce mode est indépendante de G et vaut de nouveau cette valeur magique KB carré sur H, pi carré sur 3. Donc, comme je le disais à l'instant, il doit y avoir quelque chose de profond derrière cette histoire. Et quelle est cette chose profonde ? Alors, en fait, ce qui a été proposé sur ce sujet, donc assez tôt, en fait, par Pendry, il y a un article de Pendry qui reprend, en fait, des travaux plus anciens de théorie de l'information dans le contexte de l'optique, surtout, c'est que, finalement, quand vous transportez de la chaleur, ce que vous faites, c'est vous transportez de l'entropie, donc vous transportez de l'information. Et donc, il est possible que cette valeur magique corresponde à une borne sur combien d'informations, ou plus exactement, combien d'énergie doit être associée au transport d'informations dans un canal unique, dans le régime où on est limité par la mécanique quantique. Voilà l'idée qui est un petit peu derrière. Alors, je vous invite à aller regarder cet article de Pendry, qui est pas si facile que ça à suivre, mais assez inspirant, et qui a été repris par un certain nombre d'auteurs, en particulier il y a cet article ici de Blanco et Vitelli, qui considère d'une part le cas des statistiques fractionnaires et d'autre part élabore plus sur le lien entre théorie de l'information et cette conductance thermique universelle. Donc l'argument de Pendry, je vais essayer de vous le reconstituer pour ce que j'en comprends à peu près ici, c'est l'argument suivant. Donc la question qui est posée, c'est... Et la conclusion finale de cet article, c'est qu'il doit exister une borne inférieure pour le flux d'énergie correspondant au transport d'informations dans un canal donné. Donc considérons qu'on a un canal qui fait passer n bits d'informations en un temps t. Ça va correspondre à une entropie qui va être de l'ordre de nkb sur t, un flux d'entropie par unité de temps de l'ordre de nkb sur t. Vous pouvez l'argument avec les mains, hein, en gros, tel qu'il est donné au début de l'article de Pendry. Ou si vous préférez parler en termes de capacité au sens de théorie de l'information, où on compte plutôt les bits en unité de puissance de 2, ça va être n sur t log 2, la capacité de la ligne. Et la détection, dans mon réservoir de droite, disons, de cette information, ça va être l'arrivée ou la non-arrivée d'une quasi-particule qui donc transporte une certaine énergie. Cette énergie, on ne peut pas la résoudre mieux que le principe d'incertitude de Heisenberg. Et donc c'est là qu'intervient la limitation quantique du processus. Donc le principe d'incertitude nous dit qu'on ne peut pas résoudre l'énergie de chacune de ces particules mieux que h bar sur t. Ce qui veut dire que pour résoudre ces différents bits, il va falloir que le spectre d'énergie du système s'étende sur une gamme n delta e, donc de l'ordre de n h bar sur t. Et vous voyez que ça implique que l'énergie moyenne par particule peut être estimée de la manière suivante, simplement en disant, voilà, supposons que ces énergies soient uniformément distribuées sur une largeur n h bar sur t, j'ai donc une distribution qui est limitée par entre 0 et nh bar sur t, et de valeur t sur nh bar pour qu'elle soit normalisée. Et pour calculer l'énergie moyenne, j'intègre l'énergie d'une particule sur cette distribution et je trouve 1,5 de nh bar sur t. Autrement dit, le courant total d'énergie, ça va être le nombre de particules fois ça divisé par le temps. Donc, il doit être plus grand que h bar n carré t moins 2 sur 2. Voilà l'argument, en gros. Et puisque le courant d'entropie, c'est kb n sur t, vous voyez que je peux éliminer, par exemple, le temps entre ces deux expressions en prenant le carré du courant d'entropie et dire que si je veux transporter une quantité d'information qui est liée par unité de temps qui est liée à un courant d'entropie IS, eh bien, je dois avoir un flux d'énergie qui est plus grand qu'une certaine valeur, lié donc au carré du courant d'entropie, qui est limité de cette manière. Le carré du courant d'entropie est plus petit que kb carré sur h fois le courant d'énergie fois une certaine constante c que cet argument, disons, avec des approximativement égal partout, m'a certainement pas permis de déterminer. Donc la conjecture, c'est qu'en fait, ce c vaut 2π carré sur 3, de manière très générale. Et je dois avouer que je n'ai pas réussi. Alors, si vous convertissez cette chose-là en termes des notations de la théorie de l'information, ça veut dire que la capacité du canal et la puissance associée à ce canal sont contraintes par cette relation ici. Alors, je dois dire que je n'ai pas réussi à comprendre, en regardant la littérature, quel était le degré d'exactitude avec lequel cette borne était vraiment prouvée en toute généralité. Je n'ai pas vraiment eu le temps de me plonger dans la littérature pour comprendre ça. Mais je voudrais juste vous montrer sur ce slide, pour un physicien au moins, qui s'intéresse au transport de quasi-particules, comment se pose le problème mathématique. Et vous trouverez dans cet article de Blanco et Vitelli des considérations de ce type. Donc, comment se pose le problème? Donc, je reviens. Donc, cette fois, je considère mon canal balistique. Hein, et je reviens à l'expression des courants que j'ai établie déjà la dernière fois et au tableau tout à l'heure. Donc, on a un courant à gauche, un courant à droite. La différence, le courant total, c'est I left moins I right. Donc ici, j'ai distingué, parce que je veux faire une analyse dans le régime non linéaire. Hein. Je ne me place pas en réponse linéaire. Je veux faire une analyse quand les paramètres mu left et mu right, T left et T right, sont quelconques. Donc le courant, c'est I left moins I right, ou le courant de particules, c'est 1 sur H fois l'intégrale sur l'énergie de la fonction de distribution du réservoir considéré. Donc ce Fg ici, ça peut être la fonction de Fermi, ça peut être la fonction de Bose, ça peut être la fonction de Wu, pour un G quelconque. De même pour le courant d'énergie. Et puis ici, comme je suis dans un canal, dans un régime balistique, j'ai le droit d'utiliser cette expression-là pour le courant d'entropie. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure au début du premier cours. Hein? Ou qu'est-ce que c'est cette fonction grand Fg? C'est par exemple la fonction x log x plus 1 moins x log de 1 moins x dans le cas des fermions et des expressions qui peuvent être exprimées toutes en termes de petit f dans le cas général, les statistiques de vous. Voilà, donc on a la différence de ces deux fonctions et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on est capable de montrer en toute généralité que si je prends le réservoir de gauche plus chaud que le réservoir de droite et le potentiel chimique à gauche plus grand que le potentiel chimique à droite pour fixer les idées, eh bien, est-ce qu'on est capable de montrer en toute généralité que ces courants obéissent cette contrainte? Alors, à ma connaissance, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, à ma connaissance, il n'y a pas de preuve analytique de cette équation. Ce que vous trouverez dans l'article ici de Blanco et Vitelli, c'est une évidence numérique. C'est-à-dire, on regarde ces deux membres en fonction de mu left, mu right, t left et t right, et on s'aperçoit que cette inégalité est toujours vérifiée. Donc, en tout cas, moi, je vous propose ça comme exercice, de montrer cette contrainte. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie, en fait, cette contrainte pour le problème qui nous occupe ? Alors, une chose sur laquelle je voudrais insister, et ça aussi, c'est un point qui n'est pas très clair dans la littérature, c'est que, à mon sens, et également au sens de ces auteurs-là, mais il semble qu'il y ait une opinion différente dans cet article-ci, eh bien, cette contrainte par elle-même ne permet pas de mettre une borne sur la conductance thermique. Il faut en fait établir une inégalité un peu plus forte pour mettre une borne sur la conductance thermique. Elle nous permet de mettre une borne sur quoi ? Eh bien, par exemple, elle contraint la chaleur dissipée par exemple, un corps noir, hein, ou un système où il y aurait ces quasi-particules fractionnaires en équilibre à la température T, vers un milieu extérieur ou un réservoir extérieur à température nulle. Donc, si je m'intéresse à la chaleur rayonnée par ce système vers l'extérieur, eh bien, vous pouvez simplement, en utilisant cette inégalité, montrer que le taux de production de chaleur par unité de temps doit être plus petit que cette contrainte qui vient de la mécanique quantique. Alors, par exemple, la loi de Stefan pour un corps noir est bien en dessous de cette limite, bien en dessous, puisqu'elle est en T4. D'accord. Alors, il y a un autre article de Pendry, postérieur, qui reprend ce problème dans le cas des photons et qui vous dit que si vous considérez l'échange entre un corps noir et un autre milieu à des températures différentes et que vous commencez à rapprocher ces deux systèmes à des distances très faibles, eh bien vous allez avoir en fait deux processus d'échange thermique. Un processus qui se fait par transfert radiatif, comme dans le cas du corps noir habituel, et puis un processus dans lequel on va voir apparaître le tunneling des photons entre les deux systèmes en utilisant les ondes évanescentes qui vont se créer à l'interface. Alors, je n'ai pas eu le temps de creuser cette question, mais vous pourrez trouver dans cet article de Pendry une analyse de ce problème, donc des échanges thermiques entre deux systèmes très proches. Très proche, ça veut dire dont la distance est plus petite que la longueur d'onde thermique des photons dans le système. Et donc la conjecture, c'est que dans ce régime, où on serait dominé par la mécanique quantique pour les échanges thermiques, cette fois dans le cas des photons, eh bien, le transfert d'énergie doit être limité par cette inégalité. Alors en fait, comment est-ce qu'on peut lier cette contrainte cette inégalité à une borne sur la conductivité thermique? Alors pour ça, il faut établir une inégalité un peu plus forte, et c'est ce qui est suggéré par ces deux auteurs-là, dans la référence qui est citée plus haut. C'est que dans le cas particulier où on considère deux réservoirs qui sont en équilibre du point de vue électronique, mais l'un plus chaud que l'autre, et dans le cas des fermions, je ne sais pas si cette inégalité est valable plus généralement, eh bien, on semble pouvoir établir une inégalité un peu différente qui fait intervenir ici toujours le carré du courant d'entropie, mais ici, vous voyez, qui fait intervenir non pas le courant d'énergie, mais le courant d'énergie moins mu in, qui serait un des éléments du courant de chaleur dans le régime de réponse linéaire. Alors, vous voyez ici maintenant, cette inégalité est plus forte parce qu'elle fait intervenir TLF moins TRI sur TLF plus TRI, donc elle contraint plus le membre de droite. Et effectivement, maintenant, si vous prenez la limite de réponse linéaire pour calculer la conductance thermique de cette inégalité, c'est très facile de voir que ça nous limite la conductance thermique avec ce fameux facteur 2π carré sur 3 qui apparaît. Bon, donc voilà. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de vous montrer que il y avait une contrainte sur la conductance thermique, au moins une contrainte conjecturée, qui a probablement des liens profonds avec la théorie de l'information. Et pour conclure ce cours, qui va donc être bref pour laisser la place au séminaire suivant, sans trop m'attarder, je voudrais juste vous donner un petit peu un aperçu de la situation expérimentale sur ce sujet. Donc évidemment, il y a eu des tests de cette valeur magique pi carré sur 3. Et à ma connaissance, tout au moins, ces tests, pour l'instant, ont été faits pour des bosons en nombre non conservé. et pour des électrons, et pas pour des statistiques fractionnaires. Donc ça serait assez intéressant de tester ça pour les quasi-particules, les foules quantiques fractionnaires, et de trouver cette conductance, de mesurer cette conductance thermique universelle, qui est donc prédite comme étant la même que pour ces quasi-particules-là. Alors, comment ça marche dans le cas des phonons ? Alors, déjà, un petit peu de théorie. Encore une fois, ce n'est pas du tout mon domaine, donc j'ai juste essayé d'apprendre un petit peu le sujet en regardant la littérature. Donc, l'idée, c'est de considérer un petit canal et de regarder les différents modes de phonons qui peuvent se propager. Alors, évidemment, les modes qui contribuent au terme linéaire en température dans la conductivité thermique, c'est les modes qui n'ont pas de gap. Il va y avoir également des modes qui vont avoir un gap, et ceux-là vont contribuer beaucoup moins à basse température, et ils vont être supprimés exponentiellement à basse température. Donc, à combien de modes est-ce qu'on doit s'attendre dans le cas d'un fil dans lequel on regarderait la conductivité thermique liée au phonon dans le régime quantique? Alors ça, c'est un article de Rego et Kirchenov qui calcule le spectre de modes acoustiques pour un système quasi 2D et pour un long fil, vous voyez ici, de section 50 nanomètres par 50 nanomètres, section transversale. Et vous voyez qu'il y a des modes qui ont un gap, donc en particulier le mode de cisaillement, et puis il y a quatre modes qui n'ont pas de gap. Un mode longitudinal, donc un mode de compression du fil, comme ça, un mode de torsion, et puis deux modes transverses, comme ça et comme ça. Donc il y a quatre modes qui sont sans gap, donc on s'attend dans ce système à avoir une conductance thermique dans le régime quantique qui va être au mieux 4 fois cette valeur magique que je montrais tout à l'heure. 4 à cause du fait qu'il y a 4 modes. Alors, alors évidemment, en dessous de quelle température il faut se placer pour voir ça? Alors ça, c'est ce qui est montré dans cette courbe ici. Il faut se placer dans un régime de température où la contribution des autres modes qui ont un gap est négligeable. Donc il faut aller dans le régime, vous voyez ici, plus petit que 100 000 K. Alors il y a un article de Schwab et collaborateurs, donc Nature 2000, qui montre des résultats expérimentaux sur un tel système. Donc ici, vous avez le système qui a été regardé par ces auteurs. Et vous voyez que ce système, en fait, il est constitué de 4 petits fils longs, donc de longueur micrométrique ou quelques micromètres. Dans cette expérience, le profil qui a été lithogravé ici pour ces fils, a été choisi d'une manière assez particulière. Vous voyez, cette courbe, elle n'est pas tout à fait anodine. De manière, inspirée par ses travaux théoriques, si j'ai bien compris, de manière à séparer de manière optimale les contributions des modes gapés et des modes sans gap, et de faire en sorte qu'on puisse voir ce truc dans un régime de température raisonnable. Alors, je ne suis pas du tout compétent pour savoir quel est le degré de certitude avec lequel on peut considérer que ça s'est établi, mais dans ce système, on s'attendrait à avoir donc 4 fois 4 fois le quantum de conductance thermique universelle. Et c'est précisément ce que cette courbe extraite de cet article veut vous montrer. Ici, vous avez donc sur une échelle log la conductance thermique ramené à 16 fois ce quantum de conductance thermique universelle à cause de ce 4 fois 4 en fonction de la température. Et donc, ce que ces auteurs disent, c'est que vous voyez ici, vous mesurez effectivement la valeur que vous attendez. Donc, il est lié à 16 fois pi carré sur 3, dans ce cas-là, pi carré sur 3, kb carré sur h. Alors, ça c'était les phonons. Donc, dans le groupe de Pekola en Finlande, il y a eu pas mal de travaux également sur le cas des photons. Je ne vais pas discuter cette expérience ici, je vous mets juste la référence, un article qui est finalement relativement récent. Et puis, pour finir, j'ai été super impressionné par cet article-ci, qui est tout tout récent, qui vient de paraître dans Science, et qui rapporte l'observation de ce quantum de conductance thermique, dans le cas cette fois des électrons. Donc voilà, donc c'est un travail de Jezoin et collaborateur, Frédéric Pierre, au LPN. Et ce qu'on voit ici, c'est en gros le dispositif expérimental. L'idée de cette expérience, si j'ai bien compris, c'est d'avoir une petite plaque métallique, donc qui est cet objet là rond, dans lequel on injecte une quantité connue de chaleur. Et cette chaleur, elle peut être dissipée de deux manières. Elle peut être dissipée à travers des contacts quantiques ponctuels, et puis elle est dissipée également par, disons, des processus électron-phonons ailleurs. Et le problème, c'est d'arriver à séparer la contribution de ces processus-là et la contribution vers les canaux liés à ces contacts quantiques ponctuels. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir compter les processus qui sont liés aux contacts quantiques ponctuels en ouvrant progressivement ces contacts quantiques de manière à faire passer un mode, deux modes, trois modes, alors que le courant ici qui part vers le bain général, lui, il ne va pas dépendre du nombre de canaux qu'on ouvre progressivement. Alors, c'est ce que vous montre ici cette courbe. C'est des mesures de thermométrie par bruit. Et vous voyez ce qui est montré ici, c'est en extrayant de cette courbe, grâce au fait qu'on peut étudier le système avec différents nombres de canaux ouverts, donc ici, il y a des résultats avec deux modes ouverts, 3, 4, etc. On peut séparer les deux contributions. Et vous voyez qu'ici, la contribution extraite pour la partie qui va donc dans les modes des guides d'onde qu'on ouvre graduellement, eh bien on voit qu'elle est quantifiée en unité de pi carré, kb carré, sur 3h. Ici, la valeur 2 correspond précisément au quantum de conductance auquel vous vous attendez pour un seul mode. Voilà, donc ceci conclut à peu près ce que je voulais vous dire sur ce transport thermique dans le régime quantique et ce quantum de conductance avec, je trouve, une très belle expérience récente dans le cas des électrons. Il y a d'autres choses dont on pourrait parler aussi, mais je vais plutôt m'arrêter. Qui est la possibilité de manipuler les courants thermiques avec des champs magnétiques. Alors ça, c'est quelque chose qui est également possible, qui est un effet qui a été prédit il y a longtemps par Mackey et Griffin, dans lequel on a cette fois une jonction Josephson, ou plus exactement une géométrie type squid, et on montre qu'on peut en fait affecter la conductance thermique en changeant le champ magnétique dans ce système. Donc pour ceux qui s'intéressent à ça, vous pouvez regarder cet article récent sur ce type de dispositif supra cette fois. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était plus pour éveiller la curiosité sur la conductance thermique dans le régime quantique. On va faire un break un peu long pour se reposer un peu, disons un quart d'heure, et on reprendra à 11h45 en gros avec le séminaire d'Olivier.